Bonjour à tous, vous êtes sur France Culture. Tout à l'heure dans la Grande Table, nous parlerons du Petit Prince à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Saint-Exupéry. Juste avant de faire le portrait de Marjane Satrapi. Il est 12h30, l'heure d'écouter le journal de la rédaction présenté par Marie-Alix Sauté. Bonjour.
Bonjour Maëlys, bonjour à tous. L'actualité de ce vendredi 31 juillet 2015, c'est notamment en France la présentation au Conseil des ministres ce matin de la liste provisoire des futures capitales régionales. Un arbitrage temporaire qui pose tout de même la question des compensations accordées aux villes qui ne seront pas désignées. Analyse à suivre de Stéphane Robert. C'est dans ce même Conseil des ministres qu'a été présenté l'autre grand texte du moment, celui de Christiane Taubira sur la justice du 21e siècle. Nous reviendrons avec Florence Turme sur l'une des mesures qui a provoqué dès hier un véritable taux celle de dépénaliser, dans certains cas bien précis, la conduite sans permis. Dans ce journal, nous nous rendrons également en Cisjordanie, où l'horreur se teinte ce matin d'indignation après qu'un bébé palestinien a été brûlé vif dans l'incendie de plusieurs maisons. Correspondance à suivre de Nicolas Ropert. Enfin, nous refermerons cette édition La tête dans les étoiles avec Véronique Pellerin. Les nouvelles informations envoyées par le robot Philae, toujours posées sur la comète Chury, permettent de lever un coin du voile sur la constitution du système solaire. Ce n'est donc qu'un arbitrage provisoire qui a été rendu aujourd'hui en Conseil des ministres sur le choix des futures capitales régionales. Cela peut, en théorie, encore bouger d'ici la fin de l'année. Et c'est ce qu'en dit ce matin André Valigny, le secrétaire d'État en charge de la réforme territoriale, tout en sachant que le dernier mot reviendra de toute façon aux futurs conseils régionaux. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Marie-Lix.
Alors, si l'on doit encore attendre pour savoir qui, par exemple, de Caen ou de Rouen sera désigné capitale de la nouvelle région normande, on peut déjà s'interroger sur la forme que prendront ces arbitrages et surtout sur les compensations qui vont être accordées aux villes qui ne seront pas désignées.
Oui, alors sur les capitales régionales, déjà il faut dire que ça concerne que 7 régions sur 13, puisque pour les 6 autres régions, rien ne change, pas de fusion, elles gardent le même périmètre territorial. Pour les 7 autres donc, certaines capitales sont évidentes, il n'y aura pas de discussion. Bordeaux par exemple, pour la grande région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente, ou encore Lyon pour Rhône-Alpes-Auvergne. Ailleurs, c'est plus compliqué. En Normandie, Caen sait que Rouen est favorite, mais fait valoir qu'elle a aussi quelques légitimités à devenir chef-lieu de région, tout comme Amiens face à Lille ou encore Montpellier face à Toulouse. C'est pour ça que cette liste est provisoire. Le choix définitif interviendra après les élections régionales en décembre. À ce moment-là, les conseillers régionaux se réuniront pour faire savoir où va leur préférence et l'État, in fine, validera ou invalidera l'avis qui lui sera soumis. Alors, ensuite, pour les villes perdantes qui devraient être, au vu de la liste du gouvernement, Caen, Besançon, Montpellier, Amiens, quelle compensation? C'est là que les arbitrages de l'État deviennent délicats, car ça concerne le maintien ou l'implantation des services déconcentrés de l'État, les rectorats, les cours des comptes, les directions des affaires culturelles. Nous allons profiter de la réforme pour répartir les services de l'État de façon plus équilibrée encore, a indiqué ce matin le secrétaire d'État à la réforme territoriale, André Valigny. Marie-Lise Lebranchu, ministre de la Décentralisation, a précisé qu'on n'allait pas tout centraliser dans la même ville. On s'oriente donc vers un panachage, c'est-à-dire le déménagement de quelques services et le maintien de beaucoup d'autres. Montpellier et Amiens, par exemple, conserveront leur rectorat. Et à Amiens, hier soir, Manuel Valls a promis aux élus locaux qu'il n'y aura pas de diminution du nombre de fonctionnaires d'État dans la ville. C'est pour ça, pour tenir compte des intérêts et des revendications politiques locales, qu'il n'y aura dans un premier temps pas de grand bouleversement. C'est aussi, entre autres pour ça que cette réforme ne générera d'économies que d'ici 5 ou 10 ans, indiqué ce matin le secrétaire d'État André Valigny.
Stéphane Robert, merci. C'est également lors de ce même Conseil des ministres ce matin qu'a été présenté le projet de loi de Christiane Taubira sur la justice du 21e siècle. Parmi les mesures qui ont fait réagir dès hier, celle de ne plus considérer la conduite sans permis comme un délit, mais comme étant passible d'une contravention lorsqu'il s'agit de la première infraction. Amende qui s'élèverait selon ce texte à 500 euros. Les réactions ont donc été très vives hier de la part notamment des associations de sécurité routière. Un véritable tollé devant lequel la garde des Sceaux se dit ce matin prête à reculer. Elle était l'invitée de Pierre Veil dans la matinale de France Inter. On écoute Christiane Taubira.
Même si j'entends effectivement le fait qu'on puisse craindre que de dire franchement, non pas simplement de le faire, mais de dire franchement qu'on forfaitise, ça peut poser des interrogations. La polémique, on la connaît. Elle peut être de bonne foi, elle peut être de mauvaise foi. Celle qui est de mauvaise foi, nous l'avons parfaitement identifiée. Celle qui est de bonne foi, nous la respectons. Je vous répète que moi-même, j'ai été réticente pendant des mois. Donc si l'acceptabilité sociale n'est pas établie, ben nous en tirerons tous les enseignements.
Nous en tirerons les enseignements. Voilà ce que dit la ministre de la Justice. Bonjour Florence Turm.
Bonjour.
Reculade ou pas de la part de Christiane Taubira. Nous verrons cela dans les prochaines semaines. Mais avant cela, on décrypte avec vous ce que signifie concrètement ce changement. Est-ce vraiment une révolution ?
Pour comprendre, il faut revenir au texte. Que dit-il ? Tout d'abord, il prévoit que si vous conduisez sans permis ou sans assurance et si vous êtes contrôlé pour la première fois dans ce cas de figure, eh bien, vous serez condamné à régler une contravention de 500 euros à condition qu'il n'y ait pas d'autres délits comme la conduite en état d'ivresse, a fortiori bien sûr, dans le cas d'un accident qui aurait fait des victimes, on reste à ce moment-là dans la qualification pénale existante. Actuellement, la conduite sans permis est passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Je dis bien passible, car en réalité, ces peines ne sont jamais prononcées. Personne ne va en prison pour une première conduite sans permis et les amendes infligées par les juges sont plutôt de l'ordre de 300 euros. Et elles le sont sous forme d'ordonnances pénales qui parviennent au conducteur dans un délai bien plus long qu'une contravention classique, susceptible d'être majorée automatiquement. Enfin, en cas de récidive, dans un délai de 5 ans, le texte prévoit des sanctions plus lourdes qu'auparavant, avec un retour au pénal, jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende, 2 mois pour un défaut d'assurance, contre une amende aujourd'hui. Alors pour revenir à votre question, révolution ou pas, on a plutôt envie de répondre « tempête dans un verre d'eau », car si les syndicats de magistrats regrettent l'emballement politico-médiatique et le procès en laxisme autour de cette annonce, ils soulignent aussi qu'elle ne permettra de désengorger ni les tribunaux ni les prisons, ce qui est bien la véritable problématique actuelle.
Merci Florence Turm pour ces précisions. Venons-en maintenant au dossier Mistral qui ne devrait bientôt plus empoisonner les relations diplomatiques entre la France et la Russie. Le conditionnel s'impose encore dans la mesure où la nouvelle tombée ce matin d'un accord entre Paris et Moscou émane pour l'instant du seul côté russe. Il n'y a pas encore de confirmation officielle en France, que ce soit du côté de l'Élysée ou du Quai d'Orsay. Les négociations qui avaient démarré il y a 8 mois butaient encore sur la question du montant du dédommagement versé par Paris à Moscou pour ne pas livrer 2 navires de guerre à la flotte russe. Les explications, c'est avec vous, Ezekiel Fernandez.
Montant de la facture pour la France, 1 milliard 160 millions d'euros. Et ce chiffre ne tombe pas du ciel. Il avait été affiché dès le mois dernier par la Russie, alors que Paris ne proposait pour sa part que 785 millions d'euros, ce qui fait une sacrée différence. Moscou invoquait notamment les fortes sommes dépensées pour la formation de 400 marins ou la construction d'infrastructures à Vladivostok, port qui devait accueillir l'un des 2 Mistral. Il faut croire que face à la détermination russe, la France a dû céder. De toute façon, le bras de fer devenait de plus en plus insupportable pour l'État français. Pourquoi ? Bien parce que l'entretien de ces navires coûte la bagatelle de 5 millions d'euros par mois. Ça fait cher, la place de garage. Et puis, il va bien falloir trouver de nouveaux acheteurs pour ces navires. Il semblerait qu'à l'heure qu'il est, aucun client ne se soit signalé. Certains avaient évoqué la piste chinoise, mais elle paraît bien improbable compte tenu des tensions internationales générées par la politique maritime de Pékin, jugée agressive, entre autres, par le Japon et suivie de très près par les États-Unis. Il serait pour le moins paradoxal de signer avec la Chine alors que le contrat avec Moscou a été remis en cause pour des raisons diplomatiques, il faut s'en souvenir, par la France à cause du rôle joué par la Russie dans le conflit ukrainien. En principe, selon Vladimir Kojine, conseiller de Vladimir Poutine cité par l'agence russe Novosti, l'accord sur le dédommagement accordé par la France à la Russie devrait être paraphé prochainement, dans les prochaines semaines. Encore une fois, Marie-Alix, pas de confirmation officielle côté français, à l'heure qu'il est.
Ezekiel Fernandez. L'actualité économique à la mi-journée nous emmène une fois n'est pas coutume à Athènes où les chefs des délégations des 4 institutions chargées de mettre en musique un 3e plan d'aide rencontrent, et ce pour la première fois, des membres du gouvernement de Tsipras. Un 3e plan d'aide dont les négociations paraissent se compliquer encore un peu plus avec cette nouvelle ombre jetée hier par le FMI. Le fonds a en effet annoncé qu'il ne participera pas au plan de sauvetage tant que la Grèce n'aura pas consenti à un paquet complet de réformes. Bonjour Jean-Marc Chardon.
Bonjour Marie-Alix.
L'autre condition posée par le FMI s'adresse aux Européens. Elle concerne la soutenabilité de la dette hellène. Mais pourquoi le fonds met-il ce préalable en négociation ?
Ah, ce n'est pas une découverte phénoménale, hein. Ce n'est pas étonnant. Juste avant le référendum lancé par Alexis Tsipras, le FMI avait élaboré un rapport qui concluait que la dette grecque n'étant pas soutenable, selon lui, eh bien, il faudrait la restructurer, autrement dit l'alléger d'une manière ou d'une autre. Mais comme ça contrariait les Européens, eh bien, ce rapport il est passé fin juin quasiment inaperçu. Depuis, le Parlement grec a voté le premier train de réforme exigé par la Troïka, donc FMI compris, pour en un mot être éligible au 3e plan de relance. Et en compensation immédiate, Athènes a obtenu un prêt du d'urgence de 7 milliards, un prêt dit relais, juste de quoi rembourser des dettes à la Banque Centrale Européenne et des arriérés au FMI. C'est donc une étape, sauf que le FMI, il campe sur sa position, il argue du fait qu'il ne peut aller plus loin de par ses statuts et accorder de prêts à un pays dont la dette est jugée insoutenable. Alors insoutenable, mais quelle instance peut en apporter aujourd'hui la démonstration? C'est tout le problème. Les Européens ne sont pas sur cette ligne. Elle supposerait de toute façon qu'on allégerait les remboursements dus aux créanciers qui sont aujourd'hui les États. Le problème est donc de taille car le nouveau plan d'aide, ce n'est jamais que le troisième, il doit peser 80 milliards d'euros à valider pour la mi-août. Alors si les créanciers ne sont pas d'accord entre eux, eh bien le feuilleton grec, il risque de reprendre en plein cœur de l'été.
Merci Jean-Marc Chardon. Prenons maintenant la direction de la Cisjordanie où l'horreur cède peu à peu la place à la plus vive des indignations après qu'un bébé palestinien a été brûlé vif dans l'incendie de sa maison par des colons israéliens. Le président palestinien Mahmoud Abbas dénonce ce matin un nouveau crime de guerre de la part d'Israël et entend s'adresser à la Cour pénale internationale. L'État hébreu, qui a qualifié par la voix de son premier ministre Benjamin Netanyahou les auteurs de ce crime de terroristes, l'armée israélienne a lancé une opération pour retrouver les quatre hommes aperçus par les témoins. Ils pourraient être des extrémistes juifs adeptes du mouvement Le Prix à payer. Alors qui se cache derrière ce groupe? Élément de réponse avec cette correspondance de Nicolas Roper.
Les attaques de colons ne sont pas rares en Cisjordanie. Selon le décompte des Palestiniens, 11 000 incidents ont eu lieu depuis 2014. Olivier arraché, jets de pierre sur des Palestiniens, mais aussi dégradation de mosquées ou de bâtiments. Les violences n'ont jamais été aussi inquiétantes, témoigne un responsable de l'ONG israélienne La Paix Maintenant. Ces dernières années, un groupe en particulier s'est fait remarquer. Ils se font appeler le prix à payer, en référence à cette inscription qu'ils aiment écrire sur les bâtiments qu'ils dégradent. Difficile de dire combien ils sont, plusieurs dizaines certainement, quelques centaines maximum. Souvent jeunes, issus de la deuxième génération de colons, ils n'ont parfois connu que les colonies de Cisjordanie. Ouvertement racistes, ces groupes mettent en avant leur foi religieuse. Pour beaucoup, la loi de Dieu est au-dessus de tout, notamment de la loi israélienne. Ces fanatiques bénéficient pourtant d'une certaine impunité des autorités israéliennes. La preuve, lorsque les Palestiniens portent plainte pour des agressions ou des dégradations, dans 85% des cas, ces plaintes sont classées sans suite. C'est ce que dénonce l'organisation israélienne Yesh Din, qui apporte aux Palestiniens une aide juridique. Près de 400 000 colons israéliens résident aujourd'hui en Cisjordanie, un chiffre en constante hausse depuis 1967.
À noter aussi au chapitre international ce nouvel attentat kamikaze au Nigeria perpétré ce matin sur un marché de Maïdougouri, la capitale de l'état de Borno. 5 personnes ont été tuées. L'état de Borno, situé au nord-est du Nigeria, est le théâtre principal des attaques des islamistes de Boko Haram dans le pays. Le Nigeria, qui fait partie, comme le Tchad, de la force armée conjointe des pays de la région, mise sur pied pour lutter justement contre Boko Haram. L'armée tchadienne affirme de son côté ce matin avoir tué plus de 100 combattants islamistes lors de sa vaste offensive lancé il y a 2 semaines sur les îles du lac Tchad. Avant de refermer cette édition, envolons-nous dans l'espace avec vous, Véronique Pellerin. Bonjour.
Bonjour Marie-Alix.
Direction Tchoury, cette comète sur laquelle est posée Philae depuis le 9 novembre dernier. Philae qui continue sa mission de collecte de données. Mais les nouveaux résultats qui ont été transmis à l'agence spatiale révèlent des structures et des caractéristiques inattendues sur ce type de corps céleste. Mais pas seulement, ils nous donnent également des indications précieuses sur ce qui a pu se passer lors de la constitution du système solaire il y a plus de 4 milliards d'années.
Alors ces données sont si nombreuses que la prestigieuse revue American Science sort aujourd'hui un numéro spécial entièrement consacré à la comète et aux analyses faites par le robot Philae et transmises sur Terre par Rosetta. Et il y a des surprises. Alors contrairement à ce qu'on imaginait jusqu'à présent, la comète n'est pas qu'une simple boule de glace noire et sale. Son sol est beaucoup plus diversifié. Parfois il est dur et gelé, parfois il est mou et sablonneux. Première conclusion, quand le système solaire s'est constitué par agrégation de poussière. Certaines de ces poussières se sont agglomérées en blocs de plus en plus importants jusqu'à donner une planète, par exemple la Terre, mais d'autres corps célestes, les comètes, sont restés à un stade plus primitif, à un stade préplanétaire en quelque sorte. Deuxième surprise, la présence de molécules organique. 16 ont été repérées par Philae et 4 d'entre elles, je vous en épargne le nom, sont des précurseurs de molécules complexes comme les sucres et les acides aminés qui constituent, eux, les briques du vivant. On peut donc imaginer que des comètes seraient tombées dans les océans et on sait qu'à une époque, la Terre a été littéralement bombardée. Ces molécules organiques se sont diffusées dans l'eau, elles ont été réchauffées par le soleil, elles se sont combinées entre elles et elles ont donné naissance à des chaînes complexes à l'origine de la vie. Voilà un des scénarios possibles de l'apparition de la vie sur Terre, tel qu'en tout cas nous le montre Philae aujourd'hui.
Merci beaucoup Véronique Pellerin. Un dernier mot avant de passer à la météo pour vous dire que c'est finalement Pékin qui a été désigné par le CIO pour organiser les Jeux Olympiques d'hiver de 2022. La Chine a fait parler sa superpuissance économique et géopolitique face à la ville d'Almaty au Kazakhstan, seule autre ville candidate. Le temps restera instable sur le sud-ouest avec des averses qui pourront prendre un caractère orageux. Partout ailleurs, c'est du soleil, parfois voilé sur les régions du centre. Côté température, le mercure est en légère hausse, compté cet après-midi de 19 à 30 degrés du nord au sud du pays. Fin de cette édition préparée avec Meta Chiteya. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 18h pour un nouveau journal.